Chapitre 15. Le Moyen Âge. Ne faire qu'un petit bout de chemin n'est pas la même chose que se tromper de chemin. Une semaine s'écoula sans que Sophie eût d'autres nouvelles d'Alberto Knox. Elle ne reçut pas de carte du Liban non plus, mais elle n'arrêta pas de parler avec Yoren de celle qu'elles avaient trouvée dans le chalet. Yoren avait été plutôt secoué. Mais faute de nouveaux épisodes, elle s'était remise de ses frayeurs grâce à ses devoirs et au badminton. Sophie relut plusieurs fois les lettres d'Alberto Knox dans l'espoir de trouver un indice au sujet de Hilde. Cela lui permit, par la même occasion, de mieux digérer la philosophie antique. Elle ne confondait plus, comme au début, Démocrite, Socrate, Platon et Aristote. Le vendredi 25 mai, elle était devant la cuisinière à préparer le repas pour sa mère quand celle-ci rentrerait de son travail. C'était ce qui était convenu tous les vendredis. Au menu, soupe de poisson et quenelle de brochet aux carottes. Simple, quoi. Dehors, le vent s'était levé. Tout en veillant à ce que la soupe n'attache pas, Sophie se retourna et regarda par la fenêtre. Les bouleaux se balançaient comme des épis de blé. Soudain, elle entendit une sorte de claquement contre la vitre. Sophie se retourna à nouveau et découvrit un bout de carton que le vent avait plaqué contre le carreau. Sophie se dirigea vers la fenêtre et vit que c'était une carte postale. À travers la vitre, elle lut « Hilde Møller-Knag, aux bons soins de Sophie Amundsen ». Pouvait-elle s'attendre à autre chose? Elle ouvrit la fenêtre et prit la carte. Le vent ne l'avait quand même pas poussé du Liban jusqu'ici. Cette carte aussi portait la date du vendredi 15 juin. Sophie retira la casserole du feu et s'assit à la table de la cuisine. Le texte disait « Chère Hilde, je ne sais pas si à l'instant où tu liras ces lignes, ce sera le jour de ton anniversaire. En tout cas, j'espère que cette lettre n'arrivera pas trop longtemps après. Qu'une semaine ou deux passent, cela ne veut pas dire pour autant que ce sont les mêmes semaines qui passent pour nous. Je rentrerai pour le soir de la Saint-Jean. Nous resterons alors longtemps sur la balancelle du jardin à admirer la mer, Hilde. Nous avons tant de choses à nous dire. Amitié. Ton papa qui a pourtant des coups de cafard à voir cette guerre millénaire entre les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Chaque fois, je ne peux m'empêcher de penser que ces trois religions ont toutes leurs racines chez Abraham. C'est bien le même Dieu qu'il prie, non? Mais ici, Caïn et Abel n'ont pas encore cessé leur lutte fratricide. PS. Peux-tu dire un petit coucou à Sophie de ma part? La pauvre, elle n'a pas encore saisi le jeu. Mais toi, tu as compris ou je me trompe? Sophie posa épuisée la tête entre ses mains. Non, elle ne comprenait rien à tout ceci. Alors que Hilde, oui. Si le père de Hilde priait sa fille de lui dire un petit bonjour de sa part, cela revenait à dire que Hilde connaissait mieux Sophie que Sophie ne connaissait Hilde. C'était d'un compliqué. Autant retourner à ses casseroles. Une carte qui se colle toute seule sur la vitre de la cuisine. Poste aérienne à prendre au pied de la lettre. À peine avait-elle remis la soupe sur le feu que le téléphone sonna. Oh, si ça pouvait être papa! Si seulement il revenait, elle lui confierait tout ce qui lui était arrivé ces dernières semaines. Mais ce n'était certainement que Yoren ou maman. Elle se précipita sur le combiné. Allô?
C'est moi,
répondit une voix. Sophie était sûre de trois choses. Ce n'était pas papa, mais c'était une voix d'homme. Et elle était persuadée d'avoir déjà entendu cette voix quelque part. « Qui est à l'appareil ?» demanda-t-elle.
« C'est Alberto. »
« Oh !» Sophie ne savait pas quoi dire. Sophie reconnut la voix de la vidéo sur Athènes.
« Tu vas bien ?»«
Oui. »«
À partir d'aujourd'hui, tu ne recevras plus de lettres. »«
Mais je n'ai rien fait de mal. » »«
Nous allons nous rencontrer en personne. » Ça devient urgent, tu comprends?
Pourquoi ça?
Nous sommes en passe d'être encerclés par le père de Hilde.
Comment ça, encerclés?
De tous côtés, Sophie. Il faut que nous collaborions à présent. Mais tant que je ne t'aurai pas parlé du Moyen-Âge, tu ne peux m'être d'aucune utilité. Et puisque nous y sommes, peut-être aurons-nous le temps de voir la Renaissance et le XVIe siècle aussi. Sans parler de Berkeley, qui joue un rôle déterminant.
Il n'y avait pas un portrait de lui dans le chalet de Meyerstua?
Si. C'est sans doute à partir de sa philosophie que la bataille proprement dite va se jouer.
À t'entendre parler, on dirait qu'il s'agit d'une guerre.
Je dirais plutôt un combat d'idées. Nous devons essayer d'éveiller l'intérêt de Hilde et de la rallier à notre cause avant que son père ne rentre à l'île Sand.
Je n'y comprends rien.
Peut-être que les philosophes vont ouvrir les yeux. Viens me rejoindre à l'église Sainte-Marie demain matin à 4 heures. Mais viens seul surtout.
Je dois venir en pleine nuit? Clic. Allô? Oh, le lâche! Il avait raccroché. Sophie se précipita à la cuisine. Il était moins une, la soupe allait déborder. Elle versa les quenelles de poisson et les carottes dans la casserole et baissa le feu. Dans l'église Sainte-Marie? C'était une vieille église en pierre qui datait du Moyen-Âge. Sophie croyait qu'elle était réservée à des concerts et certaines cérémonies religieuses. Parfois, l'été, on la laissait ouverte pour les touristes. Mais en pleine nuit? Quand sa mère rentra, Sophie avait rangé la carte du Liban à sa place dans l'armoire, avec tous les autres objets d'Alberto et de Hilde. Après le repas, elle alla rendre visite à Yoron. « Il faut que nous fassions une sorte de pacte toutes les deux », dit-elle à son amie, à peine passé le seuil de la porte. Elle attendit, pour en dire plus, de monter dans la chambre de Yoron et refermer la porte. « C'est assez difficile à expliquer », poursuivit Sophie. « Oh, allez !»« Je vais être obligée de dire à maman que je passe la nuit chez toi ce soir. » « Mais ça ne me dérange pas du tout. »« Oui, mais c'est seulement la version officielle, tu comprends. Je serai tout à fait ailleurs. »« Ça, c'est plus embêtant. C'est à cause d'un garçon ?»« Non, mais c'est à cause de Hilde. »
Yoron poussa un faible cri, et Sophie la regarda droit dans les yeux.
« Je viendrai ce soir, » dit-elle, « mais je devrais m'échapper discrètement vers 3 heures du matin. » Il faudra que tu me couvres jusqu'à mon retour. Mais tu vas aller où, Sophie? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire?
Sorry, j'ai des ordres.
Coucher chez une amie ne posait aucun problème en soi, bien au contraire. Sophie avait l'impression que sa mère appréciait parfois d'avoir la maison pour elle toute seule.
Mais je compte sur toi pour être là au petit déjeuner, insista-t-elle avant de la laisser partir.
Sinon, tu sais où me trouver.
Pourquoi avait-elle dit cela? Il était là, le point faible. La nuit chez son ami commença comme toutes les nuits qu'on passe hors de chez soi, par une interminable conversation jusque tard dans la nuit. À la seule différence que Sophie mit le réveil à 3h15 quand elles décidèrent enfin de dormir vers 1h du matin. Yoron ouvrit à peine un œil quand Sophie arrêta le réveil 2 heures plus tard.
« Sois prudente, » glissa-t-elle.
Puis, Sophie se mit en route. Plusieurs kilomètres la séparaient de l'église Sainte-Marie, mais malgré le manque de sommeil, elle se sentait réveillée comme en plein jour. À l'horizon, une traînée rouge semblait flotter au-dessus des champs. Quand elle arriva enfin au portail de la vieille église en pierre, il était 4 heures. Sophie poussa la lourde porte. Elle était ouverte. À l'intérieur, le vide et le silence étaient aussi imposants. Les vitraux renvoyaient une lueur bleutée qui faisait briller 1000 poussières en suspension dans l'air. La poussière semblait ainsi former de grosses poutres qui se croisaient dans l'espace. Sophie s'assit sur un banc au cœur de la nef. Elle regarda attentivement l'autel et leva les yeux vers le vieux crucifix aux couleurs délavées. Quelques minutes passèrent.
Soudain, l'orgue se mit à jouer. Sophie n'osa pas se retourner. On aurait dit l'air d'un vieux psaume, sans doute du Moyen-Âge lui aussi.
Puis, tout redevint silencieux. Mais elle ne tarda pas à percevoir un bruit de pas qui se rapprochait.
Devait-elle se retourner? Elle choisit de garder les yeux rivés sur Jésus sur la croix. Les pas la dépassèrent, et elle aperçut la silhouette d'un homme qui remontait l'allée centrale. Il portait une bure de moine couleur marron. Sophie aurait juré que c'était un vrai moine du Moyen Âge. Elle avait peur, et son cœur battait la chamade. Arrivé devant l'autel, le moine décrivit un arc de cercle et gravit la chair d'un palan. Il se pencha en avant, regarda Sophie et déclama en latin « Gloria patri et filio et spiriti sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper in saecola saecolorum. »
« Tu peux pas traduire, espèce d'idiot !» lui cria Sophie.
Ces paroles résonnèrent dans la vieille église en pierre. Elle avait compris que ce moine devait être Alberto Knox. Elle regretta cependant d'avoir eu ces mots déplacés dans une vieille église. Mais elle avait eu peur, et quand on a peur, ça réconforte de faire justement ce qui est tabou.
Chut ! Alberto baissa la main comme le font les prêtres pour indiquer que la congrégation doit s'asseoir.
« Quelle heure est-il, mon enfant ?» demanda-t-il.
« 4h05, »
répondit Sophie qui n'avait plus peur.
« Alors c'est l'heure. Le Moyen Âge peut commencer. »«
Le Moyen Âge commence à 4h ?»
demanda Sophie d'un ton ahuri.
« À peu près à 4h, oui. Puis ce fut 5h, 6h et 7h. Mais c'était comme si le temps était immobile. » Il fut 8h, puis 9, puis 10h, et on était toujours au Moyen Âge. Tu penses sans doute qu'il était grand temps de passer à autre chose. Mais c'est comme un week-end, un très long week-end. Il fut 11h, midi, puis 1h de l'après-midi. C'est ce qu'on a appelé le Moyen Âge tardif, l'époque de la construction des grandes cathédrales en Europe. Vers 2h de l'après-midi, enfin, il y eut un coq ou deux qui annoncèrent le lent déclin du Moyen Âge.
« Le Moyen Âge aura duré en tout 10 heures, » dit Sophie.
Alberto rejeta d'un mouvement de tête la capuche de sa bure de couleur brune et regarda fixement l'assemblée des fidèles qui se réduisait à une seule jeune fille de 14 ans.
« Si 1 heure dure 100 ans, oui. On peut partir du principe que Jésus est né à minuit. Paul commença à prêcher un peu avant minuit et demi et mourut à Rome un quart d'heure plus tard. Jusque vers 3 heures, l'Église chrétienne fut plus ou moins interdite. Mais en l'an 313, le christianisme fut enfin reconnu dans l'Empire romain. Ce fut sous le règne de l'empereur Constantin. Cet empereur pieux fut baptisé des années après sur son lit de mort. À partir de 380, le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain.
Mais l'Empire romain ne s'est pas dissous?
Oh, il y eut des signes avant-coureurs. C'est un des moments décisifs dans l'histoire de la culture. En l'an 300, Rome était à la fois menacée par les peuples du Nord et par des luttes intestines. En 330, l'empereur Constantin déplaça la capitale à la ville de Constantinople, qu'il avait fondée à l'entrée de la mer Noire, et elle fut considérée comme la Nouvelle Rome. En 395, l'Empire romain fut scindé en deux. L'Empire romain d'Occident, avec Rome, et l'Empire romain d'Orient, avec la nouvelle ville de Constantinople pour capitale. En 410, Rome fut pillée par les barbares. Et en 476, tout l'Empire romain d'Occident s'effondra. Quant à l'Empire romain d'Orient, il subsista sous cette forme jusqu'en 1453, date de la conquête par les Turcs.
C'est alors que la ville prit le nom d'Istanbul?
Oui, c'est ça. Il y a une autre date qu'il faut retenir, 529. C'est l'année où l'Église fit fermer les portes de l'Académie de Platon à Athènes. La même année, l'ordre des bénédictins vit le jour. Ce fut le premier ordre monastique.
Ainsi, l'an 529 est-il le symbole de la mainmise de l'Église sur la philosophie grecque. Désormais, les monastères eurent le monopole de l'enseignement, de la réflexion et de l'exégèse. Les aiguilles indiquent presque 5h30.